Radio Prague, les informations.
Selon le président allemand, l'Allemagne est consciente de sa responsabilité des massacres dans les villages de Lidice et de Lejaki. La Chambre des députés a ratifié le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Le ministre de l'Éducation relève de ses fonctions le chef du Centre pour la préparation des baccalauréats. L'Allemagne est consciente de sa responsabilité des massacres dans les villages de Lidice et de Lejac et partage la douleur qu'ils ont provoquée. C'est ce qu'a écrit dans une lettre adressée à son homologue tchèque Václav Klaus, le président allemand Joachim Gauck, à l'occasion du 70e anniversaire de l'anéantissement de ces villages par les nazis. Il a exprimé également l'admiration pour le courage des parachutistes ayant fait l'attentat contre le protecteur du Reich, Reinhard Heydrich. La chambre basse du Parlement tchèque a ratifié ce vendredi le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Celui-ci avait déjà été avalisé par le Sénat. 151 députés sur un total de 164 députés présents se sont prononcés en faveur du traité. La Croatie sera le 20e pays membre de l'Union européenne, l'élargissement étant prévu pour le 1er juillet 2013. Au Parlement tchèque, la ratification aurait dû être associée au vote sur l'exception tchèque au traité de Lisbonne réclamé par le président Klaus. Finalement, les deux votes se déroulent séparément. Le ministre tchèque de l'Éducation, Petr Fiala, a relevé de ses fonctions le chef du Centre pour la préparation des baccalauréats Cermat, Pavel Zeleny. Il lui reproche des failles dans l'organisation des baccalauréats et dans leur présentation. Le ministre a chargé de direction de Cermat Jiří Zika, un des employés du Centre. Pavel Fiala a également signalé aux journalistes de préparer un audit des frais de l'organisation des baccalauréats unis ayant été préparés par Cermat. Le nouveau parti tchèque, l'IDEM, a publié ses priorités politiques. Selon Karolína Pík, leader de la nouvelle formation, les membres du parti se proposent d'imposer en politique l'intégrité humaine. « Je vais démontrer qu'un homme intègre n'est pas un homme bête », a-t-elle écrit dans une déclaration pour la presse. « Notre politique sera le respect de la liberté de l'individu et le soutien maximal pour son développement ». À la mi-juin, la Saxe ouvrira sa délégation dans la capitale tchèque. La délégation, qui sera également un centre d'information saxon, sera abritée dans le palais du séminaire lusacien, Lužický séminaire, dans le quartier de Malastrana. Selon l'agence ČTK, la maison de Saxe sera inaugurée à la mi-juin par le premier ministre saxon Stanislav Tillich. Météo. Vendredi, jour de la fête des Médardes, le temps est couvert et pluvieux sur la majorité du territoire tchèque. Les températures maximales ont été comprises entre 20 et 24 degrés. Les précipitations pourront être très abondantes, notamment en Moravie, en Bohême du Sud et de l'Est. Samedi, le ciel en Tchéquie sera nuagé à couvert, il pleuvra et les températures maximales se situeront entre 19 et 23 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information et bienvenue dans cette dernière édition des faits et événements de la semaine. Le ministre de l'Éducation, Petr Fiala, a annoncé sa décision d'abandonner le projet de réforme de l'enseignement supérieur, un projet qui avait été très controversé et avait entraîné un mouvement de protestation dans le monde universitaire il y a quelques mois. Mode ensuite, avec la présentation ce vendredi de la collection de prêt-à-porter de Kateřina Geislerová, une styliste tchèque implantée à Paris. Enfin, dans la rubrique économique aujourd'hui, ce sera direction le marché méditerranéen au centre de Prague. Bonne écoute de ce programme. Ce jeudi, le ministre de l'Éducation, Petr Fiala, a annoncé, à l'issue de sa rencontre avec les recteurs tchèques, qu'il mettait fin aux préparatifs de la très controversée réforme de l'enseignement supérieur. Un soulagement certain pour les 20 000 étudiants et professeurs tchèques qui se sont mobilisés en début d'année contre ce projet élaboré par l'ancien ministre de l'Éducation et qui, selon eux, risquait de priver les universités tchèques de leur autonomie. Magdalena Hrozinková.
Vyraste! Vyraste! Buďme tady! On s'en souvient encore de ces protestations sans précédent du monde universitaire tchèque en colère contre l'ex-ministre de l'éducation Josef Dobeš et son projet qui ambitionnait de réformer les écoles supérieures du pays. Pétitions, happening, manifestations, grèves organisées en février et en mars dernier. La réforme en question a suscité la désapprobation non seulement des étudiants mais aussi des recteurs. Ainsi, pas moins de 20 sénats académiques sur un total de 26 l'ont rejeté. Les étudiants et les enseignants redoutent et surtout la perte de certaines libertés académiques et l'instauration de frais de scolarité qui auraient contribué à un endettement massif des étudiants. Lui-même ancien recteur de l'université Masaryk de Brno et ministre de l'éducation depuis début mai, Petr Fiala a tout de même laissé entendre que sa décision de renoncer au projet de son prédécesseur ne signifiait pas l'abandon de la réforme de l'enseignement supérieur en tant que telle. Toutefois, celle-ci devrait désormais être préparée de façon plus approfondie et en concertation avec les représentants des écoles supérieures. Concrètement, les changements à venir ne seront pas définis dans une nouvelle loi, mais dans des amendements aux lois déjà existantes relatives au financement et à la gestion des écoles supérieures. Recteur de l'Université technique de Prague, Václav Havlíček, se félicite de la décision du ministre de l'Éducation.
Ce qui nous gênait, c'est que l'ancien ministre avait balayé d'un revers de la main toutes nos remarques et objections concernant le projet de loi sur les écoles supérieures. Quant au projet de loi sur l'aide financière apportée aux étudiants, celui-ci n'avait pas été consulté du tout avec les recteurs. En ce qui concerne les amendements aux lois proposés par l'actuel ministre, nous continuons à défendre l'autonomie des écoles supérieures et ce afin d'empêcher que celles-ci soient dépendantes des représentants politiques.
Si le ministre Petr Fiala a assuré jeudi que l'introduction des frais de scolarité, mesure prévue par son prédécesseur, ne faisait pas partie des projets du gouvernement, il envisage néanmoins d'introduire des frais d'inscription. Recteur de l'université Masaryk de Brno, Mikuláš Bek, explique les deux notions.
C'est une question de terminologie tchèque. Školné, c'est-à-dire les frais de scolarité, sont une somme qui recouvre les frais réels des études universitaires, tandis que zapisné, les frais d'inscription, donc, sont une taxe d'administration payée au début de chaque semestre. Et c'est évidemment le montant qui fait la différence entre les deux taxes.
Mikuláš Bek est d'ailleurs persuadé de la nécessité de la participation des jeunes tchèques au financement de leurs études. On l'écoute.
Il me semble qu'il y a peu de chances que l'État, avec les moyens dont il dispose actuellement, puisse améliorer le financement des écoles supérieures. La seule possibilité de remédier à la situation économique des écoles, qui est très mauvaise, est d'utiliser des moyens financiers publics et privés, y compris les frais d'inscription.
Toujours ce jeudi, le ministre de l'Éducation et les recteurs se sont mis d'accord sur une diminution de 10% du nombre de nouveaux étudiants qui seront acceptés à la rentrée 2012 par les écoles supérieures du pays. Une mesure qui reflète la situation démographique de la République tchèque et les possibilités financières du ministère de l'Éducation.
Ce vendredi soir à Prague, la styliste et couturière tchèque Kateřina Geislerová présente sa collection printemps-été 2012 dans la boutique Mona Prêt-à-Porter. Installée à Paris depuis 20 ans, Kateřina Geislerová revient progressivement dans son pays d'origine pour partager avec le public féminin tchèque le résultat de son travail. Elle nous présente la collection printemps-été 2012. On l'écoute.
Alors en fait, je vais présenter la collection de prêt-à-porter printemps-été 2012, mais également quelques pièces de ma collection couture. La collection prêt-à-porter, c'est un hommage à Audrey Hepburn, plus particulièrement à son style, son élégance nonchalante. Pour ma collection couture, c'est un hommage à Madame Gray.
Qui est ?
Madame Gray était une créatrice, donc elle a fondé sa maison de haute couture dans les années 30 à Paris. Et elle a travaillé principalement le jersey, ce qui à l'époque était particulier. Et en fait, elle l'a travaillé pratiquement comme un sculpteur. Donc ça donne des plissés de jersey fluides, enfin, ça donne des robes magnifiques. Et moi, j'aime beaucoup cette approche de sculpteur avec la matière, tissu, qui m'est propre à moi aussi, parce que j'ai surtout commencé comme ça.
C'est la troisième fois que vous présentez ici votre travail à Prague. Je suppose que vous êtes contente, après toutes ces années passées à Paris, hein, 20 ans, de pouvoir présenter votre travail ici en République tchèque, dans votre terre natale. Comment est-ce que justement les autres représentations de vos collections ont été prises ici à Prague par rapport, par exemple, à ce que vous pouvez vivre à Paris ?
Eh bien, c'était vraiment très étonnant parce que j'y ai jamais pensé avant de présenter mon travail ici. Je pensais peut-être que ça ne va pas plaire beaucoup à la femme tchèque parce que même si mon style est pas non plus très extravagant, je tiens quand même à avoir des pièces assez élégante, assez pointue et avec une pointe d'originalité. La première présentation s'est super bien passée et justement toutes les femmes qui sont venues voir mon travail m'ont dit que c'est exactement ce genre de travail qui manque ici parce que vous avez des grandes maisons et vous avez des grandes chaînes comme Mango, Zara, mais en fait, la partie milieu, il y a évidemment pas mal de créateurs, petits créateurs tchèques, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, justement, ce milieu de moyen haut de gamme, un peu pointu, avec des mini-collections, avec une approche personnalisée avec la cliente, manque justement ici. Donc voilà, c'était assez enthousiasmant et ça m'a donné l'idée de continuer et puis venir plus souvent montrer mon travail.
Comment est-ce que vous voyez la mode ici, quand vous baladez dans la rue? Évidemment, peut-être ici, au centre de Prague, c'est des touristes, des Tchèques, c'est un peu mélangé. Mais comment est-ce que vous voyez la mode des femmes tchèques à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles aiment s'habiller et comment?
Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette élégance, que Paris était connue pour cette élégance, pour la parisienne, très chic, glamour et tout. En fait, à part dans les quartiers chics et un peu bourgeois, on le voit plus beaucoup à Paris. Parce que la mode aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, c'est le jean, c'est le déchiré, c'est le délavé. Et plus vous êtes, de façon sport habillée, plus vous êtes à la mode. En fait, moi, je suis assez nostalgique de cette élégance que même il y a 20 ans, quand je suis partie à Paris, je le sentais encore dans la rue. Et plus beaucoup aujourd'hui. Et je trouve encore que ce n'est... Bon, évidemment, c'est le cas un peu partout dans tout le monde, mais je trouve qu'à Prague, c'est comme Paris il y a peut-être 10 ans. Donc, même si, évidemment, chez les adolescents, on voit, ils s'habillent tous en jean et tout, mais la femme, 30 ans, 35, 40 ans et plus, je trouve que la femme tchèque, elle aime s'habiller. Et elle prend soin d'elle et elle choisit bien ses vêtements. Elle fait vraiment attention. Ça me manque un peu à Paris, justement, cette approche.
On passe tout de suite à notre deuxième partie d'émission. En 2007, était organisé à Prague le premier marché des spécialités françaises. Sur la place Ovocny Trh, les Tchèques, où touristes de passage avaient alors pu découvrir divers produits de la gastronomie française disponible en République tchèque. Depuis, ce marché français s'est transformé en un festival méditerranéen avec musique, espace de repos et de dégustation et produits issus de divers pays des rives de la Méditerranée. Comment s'est transformé ce marché? Comment s'est-il organisé? C'est le thème de cette rubrique économique avec Thomas Bouton, organisateur du Festival Méditerranéen, au micro d'Anne Claire Beluire.
Économie, commerce.
Nous sommes jeudi, il est midi. Les stands du Festival Méditerranéen ont été installés pendant la matinée sur la place de la République, na mieste republiki, à Prague. Ils y camperont pendant 4 jours. Thomas Bouton, organisateur de l'événement, nous explique en quoi consiste ce festival.
Une fois à deux fois par an, on organise un grand marché à Prague. On essaie de réunir tous les producteurs autour de la Méditerranée. Alors c'est principalement l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce. Pour organiser un événement un peu vivant, plein de couleurs, où on peut se faire plaisir en mangeant à droite, à gauche, des petites spécialités, à des prix abordables. Et en même temps, avoir le droit à un peu de musique sympathique toute la journée, se détendre dans une chaise longue ou tout simplement sous les parasols. Et puis passer un bon moment. Et c'est pour moi une manière, de présenter les spécialités de ces pays-là dans un cadre un peu plus convivial que parfois on peut les trouver dans des boutiques ou autre chose. C'est vraiment d'essayer de les rendre abordables et un peu plus populaires forcément aussi.
Alors c'est un marché méditerranéen qui existe depuis combien de temps ici à Prague ?
Alors le marché méditerranéen en lui-même, il est né en 2011, mais il a une histoire plus ancienne parce qu'en fait il a débuté en 2007 sous le titre de marché des spécialités françaises à Prague. On travaillait à cette époque avec la Sopexa en France, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, une antenne du ministère de l'Agriculture et de la Pêche chargée de faire la promotion des produits agroalimentaires français hors France. Et puis, pour certaines raisons, après 3-4 années, donc le partenariat avec la Sopexa s'est arrêté, mais ce marché fonctionnait bien, on avait une super atmosphère, les exposants sont contents, font un chiffre d'affaires plus que sympathique. Et donc on a décidé de continuer l'opération, mais de lui donner un espèce d'air frais, ou en tout cas de nouveaux concepts, pour attirer des nouveaux produits et régénérer un petit peu l'événement lui-même.
Alors vous organisez cet événement avec votre société kazakh.
Oui.
Est-ce que ça suffit d'un événement ou deux événements annuels pour faire vivre une société ici ?
Malheureusement non. Je dois dire que c'est énormément, ça peut paraître simple à chaque fois qu'on regarde un marché de se dire mais mon Dieu, mais il n'y avait qu'à poser quelques parasols et quelques stands en bois, ça a l'air simple. En fait, c'est beaucoup de travail de préparation, déjà d'une part, parce qu'il y a énormément de logistique, d'autorisation à obtenir. La deuxième chose, c'est aussi d'arriver à fédérer des exposants entre eux et faire en sorte qu'ils proposent chacun des produits, certes, qui vont être un peu compétitifs, mais qui proposent quand même une diversité. Tout ça, ça représente une masse de travail et on arrive à vendre effectivement un prix au stand qui est aujourd'hui un peu plus cher, enfin qui a un certain prix, comparé au prix des marchés fermiers qui est quand même beaucoup plus important. Alors c'est vrai qu'on n'a plus de subventions, etc. Mais le modèle économique fait que ça reste quand même très peu profitable. Donc c'est pas grâce à ça que Kazakh continue d'exister malheureusement.
Alors c'est grâce à quoi ?
Parce qu'on fait aussi d'autres choses. Alors on organise divers événements tout au long de l'année. Récemment nous avons organisé un événement qui s'appelait Arcos Forum, qui est un forum sponsorisé par deux sociétés ici immobilières, mais qui a pour but de rendre le débat autour de la construction durable beaucoup plus présent aujourd'hui et de le rendre aussi plus accessible. Il y a des conférences, il y a des workshops, on a des intervenants qui viennent un petit peu partout dans le monde et qui viennent justement parler de la manière dont ils ont construit d'une manière entre guillemets durable, c'est-à-dire bien sûr tout ce qui est recyclage. Et je pense que c'est un débat actuel qui est très très intéressant.
Effectivement, c'est un sujet intéressant, je pense. Parce qu'on va probablement peut-être revenir vous voir pour parler plus en détail de cet autre projet. On va revenir sur les marchés. Vous m'avez dit que vous avez aussi une autre société, que vous faites d'autres choses.
Oui, tout à fait. Étant jeune, j'adorais flâner dans les marchés aux puces. Et j'avoue qu'étant à Prague, c'est quelque chose qui me manquait, de pouvoir entre guillemets se perdre dans un petit espace, mais en même temps, il y a plein de choses à voir. Donc ça me manquait ici. Et quand en 2007, j'ai fait le premier marché français à Prague, on avait énormément de produits, mais on n'avait pas un produit que moi j'adore, qui est le saucisson. Et j'ai décidé de contacter un ami qui est producteur de saucissons en France et lui dire, écoute, voilà, je vais tenter le coup. Je vais te prendre une palette de saucissons et on va voir si ça marche. Mais pour moi, si j'organise un marché français, il doit y avoir un saucisson, c'est pas possible autrement. Et puis, le résultat était que ça a très bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que les gens ici ont, entre guillemets, la culture du porc, si je puis dire, et c'est des gens qui en mangent régulièrement, mais qui n'ont pas la culture justement de la salaison, enfin je veux dire des viandes séchées ou fumées. Et du coup, voilà, ça a été une belle surprise, mais il y a beaucoup de gens qui vont aimer nos produits, il y a des millions, mais il y a quelques vinothèques, quelques laoutki, ou en tout cas quelques épiceries, qui se sont montrées intéressées par ce produit, et du coup j'ai décidé de prendre le risque aussi de monter une deuxième société autour de ça. Donc cette société est présente aussi sur les marchés, elle a un relatif succès, mais ça marche pas mal.
Alors je vais revenir encore sur ce festival méditerranéen. Comment ça marche avec les exposants ? C'est vous qui les contactez ? C'est eux qui viennent vous voir ?
Non, le gros du travail, c'est quand même nous qui préparons notre concept et qui allons le présenter aux je veux dire, aux boutiques, si je puis dire comme ça, intéressées. Et puis quand même, effectivement, de fil en aiguille, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui nous appellent pour demander s'il y a encore des stands de libre. Cette année, ça a été vraiment... Je pense que le bouche à oreille a fonctionné. Je pense aussi que d'un autre côté, il y a de plus en plus de magasins qui essaient de proposer des produits, justement d'Espagne, de France ou autre chose, de produits un peu d'épicerie fine. Donc ces magasins se multipliant, ils ont besoin de se montrer, ils ont aussi besoin de vendre, parce que le marché est un endroit où les exposants en général réalisent un chiffre d'affaires assez intéressant. Donc une grosse partie, c'est la préparation du concept, le présenter on va dire aux partenaires, et effectivement il y a aussi des gens, le boucher et les dents, qui viennent nous voir pour savoir s'il y a des stands disponibles.
Alors comment cela se passe-t-il du côté des stands? Jaroslav Vokurka tient deux boutiques d'épicerie fine à Brno. Il nous présente ce qu'il propose sur son stand et les raisons de sa présence sur ce marché pragois.
Víceméně nabízíme hlavně produkty z Francie, ať jsou to teriny, foie gráčka.
Nous offrons principalement des produits français, des terrines, des foie gras, des fromages, des moutardes, des chutneys et ainsi de suite. Nous sommes ici parce que ce marché existe depuis plusieurs années et parce qu'il a un certain succès. Et nous sommes heureux que les gens apprécient ce que nous leur proposons. Nous étions aussi à Brno le mois dernier où se tenait la deuxième édition de ce festival. Notre société vient de Brno où nous avons deux magasins. Je crois que la mairie de Brno ne désire pas vraiment voir cet événement. C'est la raison pour laquelle nous n'en étions seulement qu'à la deuxième édition, alors qu'ici, à Prague, cela existe depuis plusieurs années. Mais je pense que cela a de plus en plus de succès. Les gens attendent ce marché et logiquement, pour nos magasins, nos produits deviennent plus visibles. De plus en plus de gens voyagent à l'étranger, goûtent ces produits et donc ils désirent les trouver ici dans notre pays.
C'est en effet grâce au voyage à l'étranger que de nombreuses personnes découvrent ces traditions gastronomiques méditerranéennes. Jitka est de passage sur le marché pragois et même si elle adore ces produits, elle reste exigeante.
Je suis ici aujourd'hui par hasard, mais j'étais déjà venue l'année dernière. Il manque cependant des boissons. Le vin, c'est bon, mais il fait chaud et je préférerais pouvoir acheter des jus de fruits ou des limonades. L'année dernière, on pouvait acheter des baguettes déjà préparées. Il serait bien aussi de pouvoir voir comment ces produits sont préparés. Mais j'ai acheté un saucisson et un pâté. J'ai rendez-vous, donc je dois partir, mais je vais peut-être revenir.
Vous pouvez consulter le programme de ce festival méditerranéen sur le www.stredomorski-aperitif.cz. Vous y trouverez la liste des exposants, mais aussi celle des groupes de musique qui animent ce marché tout au long de ces 4 journées.
Voilà, c'est sur ce petit air de musique que s'achève cette émission en français de Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Évidemment, vous savez que vous pourrez retrouver nos rubriques du week-end, samedi et dimanche. Et puis évidemment, le programme habituel de la semaine, vous le retrouverez dès lundi. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.